Les frères Karamazov, livre 10, chapitre 5, au chevet d'Ilyusha. On était fort à l'étroit ce jour-là dans l'appartement du capitaine Snegiryov. Bien que les garçons qui se trouvaient là fussent prêts, comme Smurov, à nier qu'Alyosha les eût réconciliés avec Ilyusha et menés chez lui, il en était pourtant ainsi. Toute son habileté avait consisté à les amener l'un après l'autre, sans tendresse de veau, et comme par hasard. Cela avait apporté un grand soulagement à Ilyusha dans ses souffrances. L'amitié presque tendre et l'intérêt que lui témoignaient ses anciens ennemis le touchèrent beaucoup. Seul Krasotkin manquait, et son absence lui était fort pénible. Dans les tristes souvenirs d'Ilyusha, l'épisode le plus amer était l'incident avec Krasotkin, son unique ami et son défenseur, sur lequel il s'était jeté alors avec un canif. C'est ce que pensait le jeune Smurov, garçon intelligent qui était venu le premier se réconcilier avec Ilyusha. Mais Krasotkin, pressenti vaguement par Smurov au sujet de la visite d'Alyosha pour affaires, avait coupé court en faisant répondre à Karamazov qu'il savait ce qu'il avait à faire, qu'il ne demandait de conseil à personne, et que s'il visitait le malade, ce serait à son idée, ayant un plan. Cela se passait 15 jours avant le dimanche en question. Voilà pourquoi Alyosha n'était pas allé le trouver lui-même comme il en avait l'intention. D'ailleurs, tout en l'attendant, il avait envoyé à 2 reprises Smurov chez Krasotkin. Mais chaque fois, celui-ci avait refusé sèchement, en faisant dire à Alyosha que s'il venait le chercher, lui-même n'irait jamais chez Ilyusha. Il priait donc qu'on le laissât en repos. Jusqu'au dernier jour, Smurov lui-même ignorait que Kolia eût décidé de se rendre chez Ilyusha, et la veille au soir seulement, en prenant congé de lui, Kolia lui avait dit brusquement de l'attendre à la maison le lendemain matin, parce qu'il l'accompagnerait chez les Snegiryov, mais qu'il se garda de parler à personne de sa visite, car il voulait arriver à l'improviste. Smurov obéit. Il se flattait que Krasotkin ramènerait Scarabée disparu. N'avait-il pas prétendu un jour qu'ils étaient tous des ânes de ne pouvoir retrouver ce chien s'il vivait encore? Mais lorsque Smurov avait fait part timidement de ses conjectures, Krasotkin s'était fâché tout rouge. « Suis-je assez stupide pour chercher des chiens étrangers par la ville, quand j'ai Carillon ? Peut-on espérer que cette bête soit restée en vie après avoir avalé une épingle ? Ce sont des tendresses de veau, voilà tout. » Cependant, depuis 2 semaines, Ilyusha n'avait presque pas quitté son petit lit, dans un coin près des saintes images. Il n'allait plus en classe depuis le jour où il avait mordu le doigt d'Alyosha. Sa maladie datait de là. Pourtant, durant 1 mois encore, il put se lever parfois, pour marcher dans la chambre et le vestibule. Enfin, ses forces l'abandonnèrent tout à fait, et il lui fut impossible de se mouvoir sans l'aide de son père. Celui-ci tremblait pour Ilyusha. Il cessa même de boire. La crainte de perdre son fils le rendait presque fou, et souvent, surtout après l'avoir soutenu à travers la chambre et recouché, il se sauvait dans le vestibule. Là, dans un coin sombre, le front au mur, il étouffait convulsivement ses sanglots pour n'être pas entendu du petit malade. De retour dans la chambre, il se mettait d'ordinaire à divertir et à consoler son cher enfant, lui racontait des histoires, des anecdotes comiques, ou contrefaisait des gens drôles qu'il avait rencontrés, imitait même les cris des animaux. Mais les grimaces et les bouffonneries de son père déplaisaient fort à Ilyusha. Bien qu'il s'efforçât de dissimuler son malaise, il sentait, le cœur serré, que son père était humilié en société. Et le souvenir du torchon de Tille et de cette terrible journée le poursuivait sans cesse. La sœur infirme d'Ilyusha, la douce Nina, n'aimait pas non plus les grimaces de son père. Varvara Nikolaïevna était partie depuis longtemps suivre les cours à Pétersbourg. En revanche, la maman, faible d'esprit, s'amusait beaucoup, riait de tout son cœur lorsque son époux représentait quelque chose ou faisait des gestes comiques. C'était sa seule consolation. Le reste du temps, elle se plaignait en pleurant que tout le monde l'oubliait, qu'on lui manquait d'égards, etc. Mais les derniers jours, elle aussi parut changer. Elle regardait souvent Ilyusha dans son coin et se mettait à songer. Elle devint plus silencieuse, se calma, ne pleurant plus que doucement pour qu'on ne l'entendît pas. Le capitaine remarquait ce changement avec une douloureuse perplexité. Les visites des écoliers lui déplurent et l'irritèrent tout d'abord. Mais peu à peu, les cris joyeux des enfants et leurs récits la divertirent, elle aussi, et finirent par lui plaire, au point qu'elle se serait terriblement ennuyée sans eux. Elle battait des mains, riait en les regardant jouer, appelait certains d'entre eux pour les embrasser. Elle affectionnait particulièrement le jeune Smourov. Quant au capitaine, les visites des enfants le remplissaient d'allégresse. Elles firent même naître en lui l'espoir que le petit cesserait maintenant de se tourmenter, qu'il se rétablirait peut-être plus vite. Malgré son inquiétude, il demeura persuadé jusqu'au dernier jour que son fils allait recouvrer la santé. Il accueillait les jeunes visiteurs avec respect, se mettant à leur service, prêt à les porter sur son dos, et commença même à le faire. Mais ces jeux déplurent à Ilyusha et furent abandonnés. Il achetait à leur intention des friandises, du pain d'épices, des noix, leur offrait le thé avec des tartines. Il faut noter que l'argent ne lui manquait pas. Il avait accepté les 200 roubles de Catherine Ivanovna, tout comme Alyosha le prévoyait. Ensuite, la jeune fille, informée plus exactement de leur situation et de la maladie d'Ilyusha, était venue chez eux, avait fait connaissance avec toute la famille et même charmé la pauvre démente. Depuis lors, sa générosité ne s'était pas ralentie, et le capitaine, tremblant à l'idée de perdre son fils, avait oublié son ancienne fierté et recevait humblement la charité. Durant tout ce temps, le docteur Herzenstube, mandé par Catherine Ivanovna, avait visité régulièrement le malade tous les 2 jours, mais sans grand résultat, bien qu'il le bourrât de remèdes. Ce même dimanche, le capitaine attendait un nouveau médecin arrivé de Moscou, où il passait pour une célébrité. Catherine Ivanovna l'avait fait venir à grands frais, dans un dessin dont il sera question plus loin, et prié par la même occasion de visiter Ilyusha, ce dont le capitaine était prévenu. Il ne se doutait nullement que Krasotkin allait venir, bien qu'il désirât depuis longtemps la visite de ce garçon, au sujet duquel Ilyusha se tourmentait tant. Lorsque Kolia entra, tous se pressaient autour du lit du malade et examinaient un molosse minuscule, né de la veille, que le capitaine avait retenu depuis 1 semaine pour distraire et consoler Ilyusha, toujours chagriné de la disparition de Scarabée, qui devait avoir péri. Ilyusha savait depuis 3 jours qu'on lui ferait cadeau d'un jeune chien, un véritable molosse, ce qui était fort important. Et, quoique par délicatesse, il parut ravi, son père et ses camarades voyaient bien que ce nouveau chien ne faisait que réveiller dans son cœur les souvenirs du malheureux Scarabée qu'il avait fait souffrir. La petite bête remuait à côté de lui. Avec un faible sourire, il la caressait de sa main diaphane. On voyait que le chien lui plaisait, mais ce n'était pas Scarabée. S'il avait eu les 2 ensemble, rien n'aurait manqué à son bonheur. « Krasotkin !» cria un des garçons qui avait vu le premier Kolia entrer. Il y eut un certain émoi. Les enfants s'écartèrent des 2 côtés du lit, découvrant ainsi Ilyusha. Le capitaine se précipita au-devant de Kolia. « Soyez le bienvenu, cher hôte !»« Ilyusha, monsieur Krasotkin est venu te voir. » Krasotkin, lui ayant tendu la main, montra aussitôt sa bonne éducation. Il se tourna d'abord vers la femme du capitaine, assise dans son fauteuil. Elle était justement fort mécontente et maugréait parce que les enfants lui cachaient le lit d'Ilyusha et l'empêchaient de regarder le chien. Il lui fit une révérence polie. Puis, s'adressant à Nina, il la salua de la même façon. Ce procédé impressionna favorablement la malade. On reconnaît tout de suite un jeune homme bien élevé, dit-elle tout en écartant les bras. Ce n'est pas comme ceci, ils entrent l'un sur l'autre.
Comment ça, maman, l'un sur l'autre? Que voulez-vous dire?
Balbutia le capitaine un peu inquiet.
C'est comme ça qu'ils font leur entrée. Dans le vestibule, l'un monte à cheval sur les épaules de l'autre, et ils se présentent ainsi dans une famille honorable. À quoi est-ce que ça ressemble?
Mais qui donc, maman? Qui est entré comme ça?
En voilà un qui portait l'autre, et encore ces deux-là.
Mais Kolia était déjà au chevet d'Ilyusha. Le malade avait pâli. Il se dressa, regarda fixement Kolia. Celui-ci, qui n'avait pas vu son petit ami depuis 2 mois, s'arrêta, consterné. Il ne s'attendait pas à trouver un visage si jaune, si amaigri, des yeux si brûlants de fièvre, si démesurément agrandis, des mains si frêles. Avec une douloureuse surprise, il voyait qu'Ilyusha avait la respiration pénible et précipitée, les lèvres desséchées. Il s'approcha, lui tendit la main et proféra, embarrassé, « Eh bien, mon vieux, comment ça va ?» Mais sa voix s'étrangla, son visage se contracta. Il eut un léger tremblement près des lèvres. Ilyusha, encore incapable de prononcer une parole, lui souriait tristement. Kolia lui passa tout à coup la main dans les cheveux.
« Ça ne va pas mal !» répondit-il machinalement.
Ils se turent un instant.
« Alors, tu as un nouveau chien ?»
demanda Kolia d'un ton indifférent.
« Oui !»
dit Ilyusha qui haletait. « Il a le nez noir, il sera méchant !» dit Kolia d'un ton grave, comme s'il s'agissait d'une chose très importante. Il s'efforçait de dominer son émotion, pour ne pas pleurer comme un gosse, mais il n'y arrivait pas.
« Une fois grand, il faudra le mettre à la chaîne, j'en suis sûr. »« Il sera énorme !»
s'exclama un des jeunes garçons.
« Bien sûr, un molosse, ça atteint la taille d'un veau !»«
La taille d'un veau, d'un vrai veau !»
intervint le capitaine.
« J'en ai cherché exprès un comme ça, le plus méchant qui soit. Ses parents aussi sont énormes et féroces. « Asseyez-vous sur le lit d'Ilyusha ou bien sur le banc.
Soyez le bienvenu, cher hôte. Il y a longtemps qu'on vous attendait. Vous êtes venu avec Alexeï Fedorovitch ?» Krasotkin s'assit sur le lit, au pied d'Ilyusha. Il avait peut-être préparé en chemin une entrée en matière, mais maintenant il perdait le fil.
« Non, je suis avec Carillon. J'ai un chien qui s'appelle comme ça maintenant. »
Et il attend là-bas.
Je siffle et il accourt.
Moi aussi, j'ai un chien. Il se tourna vers Ilyusha.
Te souviens-tu de Scarabée, mon vieux?
Lui demanda-t-il à brûle-pourpoint. Le petit visage d'Ilyusha se contracta. Il regarda Kolia avec douleur. Alyosha, qui se tenait près de la porte, fronça le sourcil, fit signe à la dérobée à Kolia de ne pas parler de Scarabée. Mais celui-ci ne le remarqua pas, ou ne voulut pas le remarquer.
« Où est donc Scarabée ?»
demanda Ilyusha d'une voix brisée.
« Ah, mon vieux, ton Scarabée a disparu !»
Ilyusha se tut, mais regarda de nouveau Kolia fixement. Alyosha, qui avait rencontré le regard de Kolia, lui fit un nouveau signe, mais de nouveau il détourna les yeux, feignant de n'avoir pas compris.
« Il s'est sauvé sans laisser de traces. On pouvait s'y attendre, après une pareille boulette !»
dit l'impitoyable Kolia, qui cependant paraissait lui-même haletant.
« En revanche, j'ai Carillon. Je te l'ai amené. »«
C'est inutile !» dit Ilyusha.
« Non, non, au contraire, il faut que tu le vois. Ça te distraira. Je l'ai amené exprès. Une bête à long poil, comme l'autre. » « Vous permettez, madame, que j'appelle mon chien ?»
demanda-t-il à madame Snegiryov avec une agitation incompréhensible.
« Non, non, ce n'est pas la peine !»
s'écria Ilyusha d'une voix déchirante. Le reproche brillait dans ses yeux.
« Vous auriez dû !»
intervint le capitaine qui se leva précipitamment du coffre où il était assis près du mur.
« vous auriez dû attendre. »
Mais Kolia, inflexible, cria à Smourov. « Smourov, ouvre la porte !» Dès qu'elle fut ouverte, il donna un coup de sifflet. Carillon se précipita dans la chambre.
« Saute, Carillon ! Fais le beau ! Fais le beau !» ordonna Kolia.
Le chien, se dressant sur les pattes de derrière, se tint devant le lit d'Ilyusha. Il se passa quelque chose d'inattendu. Ilyusha tressaillit, se pencha avec effort vers Carillon et l'examina, défaillant.
« C'est... Scarabée ?»
s'écria-t-il d'une voix brisée par la souffrance et le bonheur.
« Qui pensais-tu que c'était ?»
cria de toutes ses forces Krasotkin radieux. Il passa les bras autour du chien et le souleva.
« Regarde, vieux, tu vois, un œil borgne, l'oreille gauche fendue, tout à fait les signes que tu m'avais indiqués. C'est d'après eux que je l'ai cherché. Ça n'a pas été long. Il n'appartenait en effet à personne. Il s'était réfugié chez les fées d'Otov, dans l'arrière-cour, mais on ne le nourrissait pas. C'est un chien errant qui s'est sauvé d'un village. Tu vois, vieux, il n'a pas dû avaler ta boulette. » Sinon il serait mort, pour sûr. Donc il a pu la recracher, puisqu'il est vivant. Tu ne l'as pas remarqué. Pourtant il s'est piqué à la langue. Voilà pourquoi il gémissait. Il courait en gémissant. Tu as cru qu'il avait avalé la boulette. Il a dû se faire très mal, car les chiens ont la peau fort sensible dans la bouche. Bien plus sensible que l'homme.
Kolia parlait très haut, l'air échauffé et radieux. Ilyusha ne pouvait rien dire. Il regardait Kolia de ses grands yeux écarquillés et était devenu blanc comme un linge. Si Kolia, qui ne se doutait de rien, avait su le mal que pouvait faire au petit malade une telle surprise, il ne se fût jamais décidé à ce coup de théâtre. Mais dans la chambre, Alyosha était peut-être seul à comprendre. Quant au capitaine, on aurait dit un petit garçon.
« Scarabée ! Alors c'est Scarabée ! » criait-il avec bonheur. « Ilyusha, c'est Scarabée, ton Scarabée. Maman, c'est Scarabée. »
Il pleurait presque.
« Et moi qui n'ai pas deviné, » dit tristement Smourov. « Je savais bien que Krasotkin trouverait Scarabée. Il a tenu parole. »« Il a tenu parole !» fit une voix joyeuse. « Bravo, Krasotkin !» dit un troisième. « Bravo, Krasotkin !» s'écrièrent tous les enfants qui se mirent à applaudir. « Attendez, attendez !» dit Krasotkin, s'efforçant de dominer le tumulte. « Je vais vous raconter comment la chose s'est faite. Après l'avoir retrouvée, je l'ai amenée à la maison et soustrait à tous les regards. Seul Smourov l'a aperçue il y a 15 jours, mais je lui ai fait croire que c'était Carillon. Il ne s'est douté de rien. Dans l'intervalle, j'ai dressé Scarabée. « Vous allez voir les tours qu'il connaît. Je l'ai dressé, vieux, pour te l'amener déjà instruit. N'avez-vous pas un morceau de bouillie ? Il vous fera un tour à mourir de rire. »
Le capitaine courut chez les propriétaires où se préparait le repas de la famille. Kolia, pour ne pas perdre un temps précieux, cria aussitôt à Carillon.
« Fais le mort !»
Celui-ci se mit à tourner, se coucha sur le dos, s'immobilisa, les quatre pattes en l'air. Les enfants riaient. Ilyusha regardait avec le même sourire douloureux. Mais la plus contente, c'était maman. Elle éclata de rire à la vue du chien et se mit à faire claquer ses doigts en appelant
« Carillon, Carillon !»«
Pour rien au monde, il ne se lèvera !»
dit Kolia d'un air triomphant et avec une juste fierté.
« Quand bien même vous l'appelleriez tous, mais à ma voix, il sera sur pied. Ici, Carillon !»
Le chien se dressa, se mit à gambader avec des cris de joie. Le capitaine accourut avec un morceau de bougie.
« Il n'est pas chaud !»
s'informa aussitôt Kolia d'un air entendu.
« Non, c'est bien, car les chiens n'aiment pas le chaud. Regardez tous !»
Ilyusha, regarde donc, vieux, à quoi penses-tu? C'est pour lui que je l'ai emmené, et il ne regarde pas. »
Le nouveau tour consistait à mettre un morceau de viande sur le museau tendu du chien immobile. La malheureuse bête devait le garder aussi longtemps qu'il plaisait à son maître, fût-ce une demi-heure. L'épreuve de Carillon ne dura qu'une courte minute.
« Pile ! »
cria Kolia. et en un clin d'œil, le morceau passa du museau de Carillon dans sa gueule. Le public, bien entendu, exprima une vive admiration. « Est-il possible que vous y ayez tant tardé uniquement pour dresser le chien ?» s'exclama Alyosha d'un ton de reproche involontaire. « Tout juste ?» s'écria Kolia avec ingénuité. « Je voulais le montrer dans tout son éclat. »« Carillon ! Carillon !» cria Ilyusha en faisant claquer ses doigts frêles pour attirer le chien. « À quoi bon ? Qu'il saute plutôt lui-même sur ton lit ! Ici, Carillon !» Kolia frappa sur le lit et Carillon s'élança comme une flèche vers Ilyusha. Celui-ci prit la tête à deux mains, en échange de quoi Carillon lui lécha aussitôt la joue. Ilyusha se serra contre lui, s'étendit sur lui, se cacha la figure dans la toison épaisse. « Mon Dieu ! Mon Dieu ! » s'exclama le capitaine. Kolia s'assit de nouveau sur le lit d'Ilyusha. « Ilyusha, je vais te montrer encore quelque chose. Je t'ai apporté un petit canon. Te souviens-tu ? Je t'en ai parlé une fois et tu m'as dit « Ah, comme je voudrais le voir !» Eh bien, je l'ai apporté. » Et Kolia tira à la hâte de son sac le petit canon de bronze. Il se dépêchait parce qu'il était lui-même très heureux. Une autre fois, il eût attendu que l'effet produit par Carillon fût passé, mais maintenant il se hâtait, au mépris de toute retenue. « Vous êtes déjà heureux ? Eh bien, voilà encore du bonheur !» Lui-même était ravi. « Il y a longtemps que je lorgnais ceci chez le fonctionnaire Morozov. À ton intention, vieux, à ton intention !» Il ne s'en servait pas, ça lui venait de son frère. Je l'ai échangé contre un livre de la bibliothèque de papa, Le cousin de Mahomet ou La folie salutaire. C'est une œuvre libertine d'il y a 100 ans, quand la censure n'existait pas encore à Moscou. Morozov est amateur de ces choses-là. Il m'a même remercié. Kolia tenait le canon à la main, de sorte que tout le monde pouvait le voir et l'admirer. Ilyusha se souleva, et tout en continuant à étreindre Carillon de la main droite, il contemplait le jouet avec délice. L'effet atteignit son comble lorsque Kolia déclara qu'il avait aussi de la poudre et qu'on pouvait tirer. Si toutefois cela ne dérange pas les dames. Maman demanda qu'on la laissât regarder le jouet de plus près, ce qui fut fait aussitôt. Le petit canon de bronze, muni de roues, lui plut tellement qu'il se mit à le faire rouler sur ses genoux. Comme on lui demandait la permission de tirer, elle y consentit aussitôt, sans comprendre d'ailleurs de quoi il s'agissait. Kolia exhiba la poudre et la grenaille. Le capitaine, en qualité d'ancien militaire, s'occupa de la charge, versa un peu de poudre, priant de réserver la grenaille pour une autre fois. On mit le canon sur le plancher, la gueule tournée vers un espace libre. On introduisit dans la lumière quelques grains de poudre, et on l'enflamma avec une allumette. Le coup partit très bien. Maman avait tressailli, mais se mit aussitôt à rire. Les enfants regardaient dans un silence solennel. Le capitaine surtout exultait en regardant Ilyusha. Kolia releva le canon et en fit cadeau sur le champ à Ilyusha, ainsi que de la poudre et de la grenaille. « C'est pour toi, pour toi! Je l'ai préparé depuis longtemps à ton intention !» répéta-t-il au comble du bonheur. « Ah, donnez-le-moi plutôt, donnez-le-moi » demanda tout à coup maman d'une voix d'enfant. Elle avait l'air inquiet, appréhendant un refus. Kolia se troubla. Le capitaine s'agita. « Petite mère, le canon est à toi, mais Ilyusha le gardera parce qu'on le lui a donné. C'est la même chose. Ilyusha te laissera toujours jouer avec. Il sera à vous deux. » « Non, je ne veux pas qu'il soit à nous deux, mais à moi seul, et non à Ilyusha !» continua la maman, prête à pleurer. « Maman, prends-le, le voici, prends-le !» cria Ilyusha. « Krasotkin, puis-je le donner à maman ?» Et il se tourna d'un air suppliant vers Krasotkin, comme s'il craignait de l'offenser en donnant son cadeau à un autre. « Mais certainement !» consentit aussitôt Krasotkin, qui prit le canon des mains d'Ilyusha et le remit lui-même à maman, en s'inclinant avec une révérence polie. Elle en pleura d'attendrissement.
Ce cher Ilyusha, il aime bien sa maman !» s'écria-t-elle, touchée. Et elle se mit de nouveau à faire rouler le jouet sur ses genoux. « Maman, je vais te baiser la main !» dit son époux en passant aussitôt des paroles aux actes. « Le plus gentil jeune homme, c'est ce bon garçon !» dit la dame reconnaissante en désignant Krasotkine. « Quant à la poudre, Ilyusha, je t'en apporterai autant que tu voudras. Nous fabriquons maintenant la poudre nous-mêmes. Borovikov a appris la composition. Prendre 24 parties de salpêtre, 10 de soufre, 6 de charbon de bouleau, piler le tout ensemble, verser de l'eau, en faire une pâte, la faire passer à travers une peau d'âne. Voilà comment on obtient de la poudre. Smourov m'a déjà parlé de votre poudre, mais papa dit que ce n'est pas de la vraie, fit observer Ilyusha. Kolia rougit. Comment pas de la vraie? Elle brûle. D'ailleurs, je ne sais pas. Ça ne fait rien, fit le capitaine gêné. J'ai bien dit que la vraie poudre a une autre composition, mais on peut aussi en fabriquer comme ça.
Vous savez ça mieux que moi. Nous avons mis le feu à notre poudre dans un pot à pommade en pierre. Elle a très bien brûlé. Il n'est resté qu'un peu de suie. Et ce n'était que de la pâte. Tandis que si on fait passer à travers une peau... D'ailleurs, vous vous y connaissez mieux que moi.
Sais-tu que le père de Boulkine l'a fouetté à cause de notre poudre ? Demanda-t-il à Ilyusha.
Je l'ai entendu dire, répondit Ilyusha, qui ne se lassait pas d'écouter Kolia.
Nous avions préparé une bouteille de poudre. Il la tenait sous le lit. Son père l'a vue. Elle peut faire explosion, a-t-il dit. Et il l'a fouettée sur place. Il voulait se plaindre de moi au collège. Maintenant, défense de me fréquenter. À lui, à Smourov, à tous. Ma réputation est faite. Je suis un casse-cou, déclara-t-il avec un sourire méprisant. Ça a commencé depuis l'affaire du chemin de fer.
« Votre prouesse est venue jusqu'à nous !» s'exclama le capitaine.
« Est-ce que vraiment vous n'aviez pas du tout peur quand le train a passé sur vous? Ce devait être effrayant !»
Le capitaine s'ingéniait à flatter Kolia.
« Pas particulièrement !» fit celui-ci d'un ton négligent. « C'est surtout cette maudite oie qui a forgé ma réputation !» reprit-il en se tournant vers Ilyusha. Mais bien qu'il affectât un air dégagé, il n'était pas maître de lui et ne trouvait pas le ton juste.
« Ah, j'ai aussi entendu parler de loi, » dit Ilyusha en riant.
« On m'a raconté l'histoire, mais je ne l'ai pas bien comprise. Est-ce que vraiment tu es allé en justice ?»«
Une étourderie, une bagatelle dont on a fait une montagne, comme c'est l'usage chez nous. »
commença Kolia avec des involtures. Je cheminais sur la place lorsqu'on y amena des oies. Je m'arrêtais pour les regarder. Un certain Vishniakov, qui est maintenant garçon de course chez les Plotnikov, me regarde et me dit « Qu'as-tu à contempler les oies ?» Je l'examine, la figure ronde et niaise, une vingtaine d'années. Vous savez que je ne repousse jamais le peuple. J'aime à le fréquenter. Nous sommes restés en arrière du peuple. C'est un axiome. « Vous riez, je crois, Karamazov ?»«
Jamais de la vie, je suis tout oreille !» répondit Alyosha de l'air le plus ingénu.
Le soupçonneux Kolia reprit courage aussitôt. « Ma théorie, Karamazov, est claire et simple. Je crois au peuple et suis toujours heureux de lui rendre justice. Mais sans le gâter, c'est le sine qua... Mais je parlais du noix. Je réponds à ce nigaud. « Voilà, je me demande à quoi pense cette oie. » Il me regarde tout à fait stupidement.
« À quoi qu'elle pense ?»«
Tu vois, lui dis-je, ce chariot chargé d'avoine. L'avoine s'échappe du sac, et l'oie tend le cou jusque sous la roue pour picorer le grain. Vois-tu ?»«
Je vois. » »«
Eh bien, fis-je, si l'on fait avancer un petit peu ce chariot, la roue coupera-t-elle le cou de l'oie, oui ou non ?»
« Pour sûr qu'elle le coupera !»
dit-il, et son visage s'épanouit dans un large sourire.
« Eh bien, mon gars, » dis-je, « allons-y »
« Allons-y » répète-t-il. Ce fut bientôt fait.
Il se plaça près de la bride, sans avoir l'air, et moi de côté, pour diriger l'oie. À ce moment, le charretier regardait ailleurs, en train de causer, et je n'eus pas à intervenir. L'oie tendit elle-même le cou pour picorer, sous le chariot, sous la roue. Je fis signe au gars, il tira la bride, et crac, l'oie eut le cou tranché. Par malheur, les autres bonshommes nous aperçurent à ce moment et se mirent à brailler. « Tu l'as fait exprès !»«
Mais non, mais si, au juge de paix !»
On m'emmena aussi. « Toi aussi, tu étais là, tu étais de mèche avec lui. Tout le marché te connaît. » « En effet, je suis connu de tout le marché, » ajouta Kolia avec fierté. Nous allâmes tous chez le juge de paix, sans oublier l'oie. Et voilà mon gars, pris de peur, qui se met à chialer. Il pleurait comme une femme. Le charretier criait. De cette manière, on peut en tuer autant qu'on veut des oies. Les témoins suivaient, naturellement. Le juge de paix eut bientôt prononcé. 1 rouble d'indemnité au charretier. L'oie revenant au gars. Il ne fallait plus se permettre de pareilles plaisanteries à l'avenir. Le gars ne cessait de geindre. Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a appris. Je répondis avec un grand sang-froid que je ne lui avais rien appris, mais seulement exprimé une idée générale. Il ne s'agissait que d'un projet. Le juge Niefidov sourit et s'en voulut aussitôt d'avoir souri. « Je vais faire mon rapport à votre directeur, » me dit-il, « pour que dorénavant vous ne mûrissiez plus de tels projets, au lieu d'étudier et d'apprendre vos leçons. » Il n'en fit rien, mais l'affaire s'ébruita et parvint en effet aux oreilles de la direction. On sait qu'elles sont longues. Le professeur Kalbasnikov était particulièrement monté, mais Dardanelov prit de nouveau ma défense. Kalbasnikov est maintenant fâché contre nous tous, comme un âne rouge. Tu as entendu dire, Ilyusha, qu'il s'est marié. Il a pris 1000 roubles de dot au Mikhailov. La fiancée est un laidron de première classe. Les élèves de troisième ont aussitôt composé une épigramme. Elle est drôle, je te la porterai plus tard. Je ne dis rien de Dardanelov. C'est un homme qui a de solides connaissances. Je respecte les gens comme lui, et ce n'est pas parce qu'il m'a défendu. Pourtant, tu lui as damé le pion au sujet de la fondation de Troyes, fit remarquer Smourov, tout fier de Krasotkin. L'histoire de l'oie lui avait beaucoup plu.
« Cela se peut-il ? » intervint servilement le capitaine.
« Il s'agit de la fondation de Troyes. Nous en avons déjà entendu parler. Ilyusha me l'avait raconté. »«
Il sait tout, papa. C'est le plus instruit d'entre nous, » dit Ilyusha. « Il se donne des airs comme ça, mais il est toujours le premier. »
Ilyusha contemplait Kolia avec un bonheur infini.
« C'est une bagatelle, je considère cette question comme futile, »
répliqua Kolia avec une modestie fière. Il avait réussi à prendre le ton voulu, bien qu'il fût un peu troublé. Il sentait qu'il avait raconté l'histoire de l'oie avec trop de chaleur. Et comme Alyosha s'était tu durant tout le récit, son amour-propre inquiet se demandait peu à peu « Se tairait-il parce qu'il me méprise ?» pensant que je recherche ses éloges, s'il se permet de croire cela, je...
Cette question est pour moi des plus futiles, trancha-t-il fièrement.
Moi, je sais qui a fondé Troyes, fit tout à coup Kartachov, un gentil petit garçon de 11 ans, qui se tenait près de la porte, l'air timide et silencieux.
Kolia le regarda avec surprise. En effet, la fondation de Troyes était devenue dans toutes les classes un secret qu'on ne pouvait pénétrer qu'en lisant Smaragdov, et seul Kolia l'avait en sa possession. Un jour, le jeune Kartachov profita de ce que Kolia s'était détourné pour ouvrir furtivement un volume de cet auteur qui se trouvait parmi ses livres, et il tomba droit sur le passage où il est question des fondateurs de Troyes. Il y avait déjà longtemps de cela, mais il se gênait de révéler publiquement que lui aussi connaissait le secret, craignant d'être confondu par Kolia. Maintenant, il n'avait pu s'empêcher de parler, comme il le désirait depuis longtemps.
« Eh bien, qui est-ce ? » demanda Kolia,
en se tournant arrogamment de son côté. Il vit à son air que Kartachov le savait vraiment, et se tint prêt à toutes les conséquences. Il y eut un froid. Troie a été fondée par Teucros, Dardanos, Ilios et Tros, récita le jeune garçon en rougissant comme une pivoine, au point qu'il faisait peine à voir. Ses camarades le fixèrent une minute, puis leurs regards se reportèrent sur Kolia. Celui-ci continuait à toiser l'audacieux avec un sang-froid méprisant. « Eh bien, comment s'y sont-ils pris ? » daigna-t-il enfin proférer. « Et que signifie en général la fondation d'une ville ou d'un État ? Serait-il venu poser des briques, par hasard ?» On rit. De rose, le téméraire devint pourpre. Il se tut, prêt à pleurer. Kolia le tint ainsi une bonne minute. Pour comprendre des événements historiques tels que la fondation d'une nationalité, il faut d'abord comprendre ce que cela signifie, déclara-t-il d'un ton doctoral. D'ailleurs, je n'attribue pas d'importance à tous ces contes de bonnes femmes. En général, je n'estime guère l'histoire universelle, ajouta-t-il négligemment.
L'histoire universelle ? Demanda le capitaine effaré.
« Oui, c'est l'étude des sottises de l'humanité, et rien de plus. Je n'estime que les mathématiques et les sciences naturelles, » dit d'un ton prétentieux Kolia en regardant Alyosha à la dérobée. Il ne redoutait que son opinion. Mais Alyosha restait grave et silencieux. S'il avait parlé alors, les choses en fussent restées là, mais il se taisait, et son silence pouvait être dédaigneux. Ce qui irrita tout à fait Kolia.
Voici qu'on nous impose de nouveau l'étude des langues mortes. C'est de la folie pure.
Vous ne paraissez toujours pas d'accord avec moi, Karamazov ?
Non,
fit Alyosha qui retint un sourire.
Si vous voulez mon opinion, les langues mortes, c'est une mesure de police. Voilà leur unique raison d'être.
Et peu à peu, Kolia recommença à haleter.
Si on les a inscrites au programme, c'est qu'elles sont ennuyeuses et qu'elles abêtissent. Que faire pour aggraver la torpeur et la sottise régnante? On a imaginé les langues mortes. Voilà mon opinion. Et j'espère ne jamais en changer.
Il rougit légèrement.
C'est vrai?
Approuva d'un ton convaincu Smourov, qui avait écouté avec attention.
Il est le premier en latin? Fit remarquer un des écoliers.
« Oui, papa, il a beau parler comme ça, c'est le premier de la classe en latin, » confirma Ilyusha.
Bien que l'éloge lui fût fort agréable, Kolia crut nécessaire de se défendre.
« Eh bien, quoi? Je pioche le latin parce qu'il le faut, parce que j'ai promis à ma mère d'achever mes études. Et à mon avis, quand on a entrepris quelque chose, on doit le faire comme il faut. Mais dans mon fort intérieur, je méprise profondément les études classiques et toute cette bassesse. Vous n'êtes pas d'accord, Karamazov ?
Que vient faire ici la bassesse ? Demanda Alyosha en souriant.
Permettez, comme tous les classiques ont été traduits dans toutes les langues, ce n'est pas pour les étudier qu'on a besoin du latin. C'est une mesure de police destinée à émousser les facultés. N'est-ce pas de la bassesse ?
Mais... « Qui vous a enseigné tout cela ?» s'exclama Alyosha, enfin surpris.
« D'abord, je suis capable de le comprendre moi-même, sans qu'on me l'enseigne. Ensuite, sachez que ce que je viens de vous expliquer au sujet des traductions des classiques, le professeur Kolbasnikov lui-même l'a dit devant toute la troisième.
« Voici le docteur !»
dit Ninotchka, qui avait tout le temps gardé le silence. « En effet, une voiture qui appartenait à Madame Koklakov venait de s'arrêter à la porte. Le capitaine, qui avait attendu le médecin toute la matinée, se précipita à sa rencontre. Maman se prépara, prit un air digne. Alyosha s'approcha du lit, arrangea l'oreiller du petit malade. De son fauteuil, Ninotchka l'observait avec inquiétude. Les écoliers prirent rapidement congé. Quelques-uns promirent de revenir le soir. Kolia appela Carillon, qui sauta à bas du lit.
« je reste, » dit-il précipitamment à Alyosha. « J'attendrai dans le vestibule et je reviendrai avec Carillon quand le docteur sera parti. »
Mais déjà le médecin entrait, un personnage important, en pelisse de fourrure, avec de longs favoris, le menton rasé. Après avoir franchi le seuil, il s'arrêta soudain comme déconcerté. Il croyait s'être trompé. « Où suis-je ? » murmura-t-il sans ôter sa pelisse et en gardant sa casquette fourrée. Tout ce monde, la pauvreté de la chambre, le linge suspendu à une ficelle, le déroutait. Le capitaine s'inclina profondément. « C'est bien ici, » murmura-t-il obséquieux. « C'est moi que vous cherchez. » « Snegiryov ?» prononça gravement le docteur. « Monsieur Snegiryov, c'est vous ?»«
C'est moi. »«
Ah !» Le docteur jeta un nouveau regard dégoûté sur la chambre et ôta sa pelisse. La plaque d'un ordre brillait sur sa poitrine. Le capitaine se chargea de la pelisse, le médecin retira sa casquette. « Où est le patient ? » demanda-t-il sur un ton impérieux. Chapitre 6. Développement précoce.
« Que va dire le docteur ? » proféra rapidement Kolia. « Quelle physionomie repoussante, n'est-ce pas ? Je ne puis souffrir la médecine. »
« Ilyosha est condamné, j'en ai bien peur, » répondit Alyosha tout triste.
« Les médecins sont des charlatans. Je suis content d'avoir fait votre connaissance, Karamazov. Il y a longtemps que j'en avais envie. Seulement, c'est dommage que nous nous rencontrions dans de si tristes circonstances. »
Kolia aurait bien voulu dire quelque chose de plus chaleureux, de plus expansif, mais il se sentait gêné. Alyosha s'en aperçut, sourit, lui tendit la main.
« J'ai appris depuis longtemps à respecter en vous un être rare, » murmura de nouveau Kolia en s'embrouillant. « On m'a dit que vous êtes un mystique, que vous avez vécu dans un monastère, mais cela ne m'a pas arrêté. Le contact de la réalité vous guérira. » C'est ce qui arrive aux natures comme la vôtre.
Qu'appelez-vous mystique ? De quoi me guérirai-je ? Demanda Alyosha un peu surpris.
Eh bien, de Dieu et du reste.
Comment ? Est-ce que vous ne croyez pas en Dieu ?
Je n'ai rien contre Dieu, certainement, Dieu n'est qu'une hypothèse, mais je reconnais qu'il est nécessaire à l'ordre du monde, et ainsi de suite. Et s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer,
ajouta Kolia en se mettant à rougir. Il s'imagina soudain qu'Alyosha pensait qu'il voulait étaler son savoir et se conduire en grand.
Or, je ne veux nullement étaler mon savoir devant lui, songea Kolia avec indignation. Et il fut tout à coup très contrarié.
J'avoue que toutes ces discussions me répugnent, déclara-t-il. On peut aimer l'humanité sans croire en Dieu. « Qu'en pensez-vous ? Voltaire ne croyait pas en Dieu, mais il aimait l'humanité. »«
Encore, encore, » songea-t-il à part lui.
« Voltaire croyait en Dieu, mais faiblement, paraît-il, et il aimait l'humanité de la même façon, » répondit Alyosha d'un ton tout naturel, comme s'il causait avec quelqu'un du même âge ou même plus âgé que lui. Kolia fut frappé de ce manque d'assurance d'Alyosha dans son opinion sur Voltaire, et de ce qu'il paraissait laisser résoudre cette question à lui, un jeune garçon.
« Est-ce que vous avez lu Voltaire ? » s'enquit Alyosha.
« Non, pas précisément. C'est-à-dire, si, j'ai lu Candide dans une traduction russe. Une vieille traduction mal faite, ridicule. »«
Encore, encore. »
« Et vous avez compris ?»«
Oh, oui, tout, c'est-à-dire... »
« Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas compris ?»«
Bien sûr, il y a des passages salés. Je suis capable, assurément, de comprendre que c'est un roman philosophique, écrit pour démontrer une idée. »
Kolia s'embrouillait décidément.
« Je suis socialiste, Karamazov, socialiste incorrigible !»
déclara-t-il soudain de but en blanc. Alyosha se mit à rire.
« Socialiste ? Mais quand avez-vous eu le temps de le devenir ? Vous n'avez que 13 ans, je crois. »
Kolia fut vexé.
« D'abord, je n'ai pas 13 ans, mais 14 dans 15 jours, » dit-il impétueusement.
« Ensuite, je ne comprends pas du tout ce que vient faire mon âge ici. Il s'agit de mes convictions et non de mon âge, n'est-ce pas ?»«
Quand vous serez plus grand,
Vous verrez quelle influence l'âge a sur les idées. Il m'a semblé aussi que cela ne venait pas de vous, » répondit Alyosha sans s'émouvoir. Mais Kolia, nerveux, l'interrompit. « Permettez, vous êtes partisan de l'obéissance et du mysticisme. Convenez que le christianisme, par exemple, n'a servi qu'aux riches et aux grands pour maintenir la classe inférieure dans l'esclavage. » « Ah, je sais où vous avez lu cela. On a dû vous endoctriner !» s'exclama Alyosha.
« Permettez, pourquoi aurais-je lu nécessairement cela? Et personne ne m'a endoctriné. Je suis capable de juger moi-même. Et si vous le voulez, je ne suis pas adversaire du Christ. C'est une personnalité tout à fait humaine. Et s'il avait vécu à notre époque, il se serait joint aux révolutionnaires. Peut-être aurait-il joué un rôle en vue. C'est même hors de doute. »
« Mais où avez-vous pêché tout cela? Avec quel imbécile vous êtes-vous lié ? » s'exclama Alyosha.
« On ne peut pas dissimuler la vérité. J'ai souvent l'occasion de causer avec M. Rakitin, mais on prétend que le vieux Bielinski aussi a dit cela. »«
Bielinski ? Je ne me souviens pas. Il ne l'a écrit nulle part. »«
S'il ne l'a pas écrit, il l'a dit, assure-t-on. » Je l'ai entendu dire à un... D'ailleurs, qu'importe.
Avez-vous lu Bielinski?
À vrai dire, non, je ne l'ai pas lu. Sauf le passage sur Tatiana, vous savez, pourquoi elle ne part pas avec Onieguine?
Pourquoi elle ne part pas avec Onieguine? Est-ce que vous comprenez déjà ça?
Permettez, je crois que vous me prenez pour le jeune Smourov, s'exclama Kolia avec un sourire irrité.
« D'ailleurs, n'allez pas croire que je sois un grand révolutionnaire. Je suis souvent en désaccord avec M. Rakitin. Je ne suis pas partisan de l'émancipation des femmes. Je reconnais que la femme est une créature inférieure et doit obéir. « Les femmes tricotent, » a dit Napoléon. Kolia sourit. « Et du moins en cela, je suis tout à fait de l'avis de ce pseudo-grand homme. J'estime également que c'est une lâcheté de s'expatrier en Amérique. » Pique cela, une sottise. Pourquoi aller en Amérique quand on peut travailler chez nous au bien de l'humanité? Surtout maintenant, il y a tout un champ d'activités fécondes. C'est ce que j'ai répondu.
Comment répondu? À qui? Est-ce qu'on vous a déjà proposé d'aller en Amérique?
On m'y a poussé, je l'avoue, mais j'ai refusé. Ceci, bien entendu, entre nous, Karamazov. Motus, vous entendez? Je n'en parle qu'à vous. Je n'ai aucune envie de tomber entre les pattes de la troisième section et de prendre des leçons au pont des chênes. Tu te rappelles le bâtiment près du pont des chênes? Vous souvenez-vous? C'est magnifique! Pourquoi riez-vous? Ne pensez-vous pas que je vous ai raconté des blagues? Et s'il apprend que je ne possède que cet unique numéro de la cloche et que je n'ai rien lu d'autre? Songea Kolia en frissonnant.
« Oh non, je ne ris pas, et je ne pense nullement que vous m'avez menti, pour la bonne raison que c'est, hélas, la pure vérité. Dites-moi, avez-vous lu l'Onieguine de Pouchkine? Vous parliez de Tatiana.
Non, pas encore, mais je veux le lire. Je suis sans préjugé, Karamazov. Je veux entendre l'une et l'autre partie.
Pourquoi cette question?
Comme ça.
Dites, Karamazov, vous devez me mépriser. » trancha Kolia, qui se dressa devant Alyosha comme pour se mettre en position.
« De grâce, parlez franchement. »«
Vous méprisez ?» s'écria Alyosha en le regardant avec stupéfaction. « Pourquoi donc ?
Je déplore seulement qu'une nature charmante comme la vôtre, à l'aurore de la vie, soit déjà pervertie par de telles absurdités. »«
Ne vous inquiétez pas de ma nature !»
interrompit Kolia non sans fatuité. Mais pour soupçonneux, je le suis. Sottement et grossièrement soupçonneux. Vous avez souri tout à l'heure, et il m'a semblé...
Oh, c'était pour une toute autre raison.
Voyez plutôt. J'ai lu récemment l'opinion d'un étranger, un Allemand établi en Russie, sur la jeunesse d'aujourd'hui. « Si vous montrez à un écolier russe, écrit-il, une carte du firmament dont il n'avait jusqu'alors aucune idée, il vous rendra le lendemain cette carte corrigée. »
Des connaissances nulles et une présomption sans bornes. Voilà ce que l'Allemand entendait reprocher à l'écolier russe. « Mais c'est tout à fait vrai !» fit Kolia dans un éclat de rire. « C'est la vérité même. Bravo l'Allemand !» Pourtant, cette tête carrée n'a pas envisagé le bon côté de la chose. Qu'en pensez-vous? La présomption, soit, ça vient de la jeunesse. Ça se corrige, si vraiment ça doit être corrigé. En revanche, il y a l'esprit d'indépendance dès les plus jeunes années, la hardiesse des idées et des convictions, au lieu de leur servilité rampante devant toute autorité. Néanmoins, l'Allemand a dit vrai. Bravo, l'Allemand. Cependant, il faut serrer la vis aux Allemands. Bien qu'ils soient forts dans les sciences, il faut leur serrer la vis.
Pourquoi cela ? S'enquit Alyosha, souriant.
Admettons que j'ai crâné, je suis parfois un enfant terrible, et quand quelque chose me plaît, je ne me retiens pas, je débite des niaiseries. À propos, nous sommes là à bavarder, et ce docteur n'en finit pas. D'ailleurs, il se peut qu'il examine la maman et Nina, l'infirme. Savez-vous que cette Nina m'a plu? Quand je sortais, elle m'a chuchoté d'un ton de reproche. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» Je la crois très bonne, très pitoyable.
Oui, oui, vous reviendrez. Vous verrez quelle créature c'est. Il vous faut en connaître de semblables pour apprécier beaucoup de choses que vous apprendrez précisément dans leur compagnie. »
Déclara Alyosha avec chaleur. « C'est le meilleur moyen de vous transformer. »
Oh, que je regrette, que je m'en veux de n'être pas venu plus tôt,
dit Kolia avec amertume.
Oui, c'est bien dommage. Vous avez vu la joie du pauvre petit? Si vous saviez comme il se consumait en vous attendant. Ne m'en parlez pas, vous avivez mes regrets. D'ailleurs, je l'ai bien mérité. Si je ne suis pas venu, c'est la faute de mon amour-propre, de mon égoïsme, de ce vil despotisme dont je n'ai jamais pu me débarrasser, malgré tous mes efforts. Je le vois maintenant, par bien des côtés. Je suis un misérable, Karamazov.
Non, vous êtes une charmante nature, bien que faussée. Et je comprends pourquoi vous pouviez avoir une si grande influence sur ce garçon au cœur noble et d'une sensibilité maladive, répondit chaleureusement Alyosha.
Et c'est vous qui me dites cela ? S'écria Kolia.
« Figurez-vous que depuis que je suis ici, j'ai pensé à plusieurs reprises que vous me méprisiez, si vous saviez comme je tiens à votre opinion.
Mais se peut-il vraiment que vous soyez si méfiant, à cet âge?
Eh bien, figurez-vous que tout à l'heure, en vous regardant tandis que vous péroriez, je pensais justement que vous deviez être très méfiant.
Vraiment, quel coup d'œil vous avez! Je parie que c'est lorsque je parlais de loi. »
Je me suis imaginé alors que vous me méprisiez profondément parce que je faisais le malin. Je me suis mis à vous détester pour cette raison et à pérorer. Ensuite, il m'a semblé, c'était déjà ici lorsque j'ai dit « si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer », que je me suis trop dépêché d'étaler mon érudition, d'autant plus que j'ai lu cette phrase quelque part. Mais je vous jure que ce n'était pas par vanité, mais comme ça, j'ignore pourquoi, dans ma joie. « Vraiment, je crois que c'était dans ma joie. Bien qu'il soit honteux d'ennuyer les gens parce qu'on est joyeux, je le sais. En revanche, je suis persuadée maintenant que vous ne me méprisez pas et que j'ai rêvé tout ça. Oh, Karamazov, je suis profondément malheureux. Je m'imagine parfois, Dieu sait pourquoi, que tout le monde se moque de moi et je suis prêt alors à bouleverser l'ordre établi. »
« Et vous tourmentez votre entourage ?» insinua Alyosha, toujours souriant. «
C'est vrai, surtout ma mère, Karamazov. Dites, je dois vous paraître très ridicule. »
« Ne pensez pas à cela, n'y pensez pas du tout !» s'exclama Alyosha.
« Et qu'est-ce que le ridicule? Sait-on combien de fois un homme est ou paraît ridicule? De plus, actuellement, presque tous les gens capables craignent fort le ridicule, ce qui les rend malheureux. Je m'étonne seulement que vous souffriez à un tel point de ce mal que j'observe depuis longtemps, en particulier chez beaucoup d'adolescents. C'est presque une folie. Le diable s'est incarné dans l'amour-propre pour s'emparer de la génération actuelle. Oui, le diable !» insista Alyosha sans sourire, comme le crut Kolia qui le fixait. « Vous êtes comme tous les autres, conclut-il, c'est-à-dire comme beaucoup. Seulement,
il ne faut pas être comme tous les autres.
Quand même tous sont ainsi ?
Oui, quand même tous sont ainsi. Seuls vous ne serez pas comme eux. En réalité, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'avez pas rougi d'avouer un défaut, et même un ridicule. Or, actuellement, qui en est capable ? Personne. On n'éprouve même plus le besoin de se condamner soi-même. Ne soyez pas comme tout le monde, quand bien même vous resteriez seul.
Très bien. Je ne me suis pas trompée sur votre compte. Vous êtes capable de consoler.
Oh, comme je me sentais attirée vers vous, Karamazov. Depuis longtemps, j'aspire à vous rencontrer.
Se peut-il que vous pensiez aussi à moi ?
Vous le disiez tout à l'heure.
Oui, j'ai entendu parler de vous, et je pensais aussi à vous.
Et si c'est en partie l'amour-propre qui vous a incité à poser cette question, peu importe.
Savez-vous, Karamazov, que notre explication ressemble à une déclaration d'amour ?
Insinua Kolia d'une voix faible et comme honteuse.
N'est-ce pas ridicule ?
Pas du tout. Et même si c'était ridicule, ça ne ferait rien, parce que c'est bien, affirma Alyosha avec un clair sourire.
Convenez, Karamazov, que vous-même, maintenant, avez un peu honte aussi. Je le vois à vos yeux.
Kolia sourit d'un air rusé, mais presque heureux.
Qu'y a-t-il là de honteux ? Pourquoi avez-vous rougi ?
Mais c'est vous qui m'avez fait rougir, dit en riant Alyosha, devenu tout rouge en effet.
Eh bien, oui, j'ai un peu honte. Dieu sait pourquoi, je l'ignore,
murmura-t-il presque gêné.
Oh, comme je vous aime et vous apprécie en ce moment, précisément parce que vous aussi, vous avez honte avec moi, parce que vous êtes comme moi,
s'exclama Kolia, enthousiasmé. Il avait les joues enflammées, ses yeux brillaient.
Écoutez, Kolia, vous serez très malheureux dans la vie,
dit tout à coup Alyosha.
Je le sais, je le sais,
comme vous devinez tout, confirma aussitôt Kolia.
Mais dans l'ensemble, vous bénirez pourtant la vie.
C'est ça. Hourra ! Vous êtes un prophète.
Nous nous entendrons, Karamazov.
Savez-vous, ce qui m'enchante le plus, c'est que vous me traitiez tout à fait en égal. Or, nous ne sommes pas égaux, vous êtes supérieur. Mais nous nous entendrons. Je me disais depuis un mois, ou nous serons tout de suite amis pour toujours, ou nous nous séparerons ennemis jusqu'au tombeau.
Et en parlant ainsi, vous m'aimiez déjà, bien sûr, dit Alyosha avec un rire joyeux.
Je vous aimais énormément. Je vous aimais et je rêvais de vous.
Et comment pouvez-vous tout deviner ?
Bah, voici le docteur. Mon Dieu, il dit quelque chose. Regardez quelle figure il a.
Chapitre 7. Ilyusha. Le médecin sortait de l'isba, emmitouflé dans sa pelisse et sa casquette sur la tête. Il avait l'air presque irrité et dégoûté. On eût dit qu'il craignait de se salir. Il parcourut des yeux les vestibules, jeta un regard sévère à Kolia et à Alyosha. Celui-ci fit signe au cocher qui avança la voiture. Le capitaine sortit précipitamment derrière le praticien et, courbant le dos, s'excusant presque, l'arrêta pour un dernier mot. Le pauvre homme avait l'air accablé, le regard plein d'effroi.
« Est-ce possible, Excellence ? Est-ce possible ? »
commença-t-il sans achever, se bornant à joindre les mains dans son désespoir, bien que son regard implorât encore le médecin, comme si vraiment un mot de celui-ci pouvait changer le sort du pauvre enfant.
« Que faire ? Je ne suis pas le bon Dieu !»
répondit le docteur d'un ton négligent, bien que grave par habitude.
« Docteur, Excellence, et ce sera bientôt ? Bientôt ?
Attendez-vous à tout !»
répondit le médecin en martelant les mots et baissant les yeux. Il se préparait à franchir le seuil pour monter en voiture, quand le capitaine, effrayé, l'arrêta une seconde fois.
« Excellence, au nom du Christ, Excellence, est-ce que vraiment il n'y a rien qui puisse le sauver maintenant ?»«
Cela ne dépend pas de moi, » grommela le docteur impatient.
« Et pourtant... »
Il s'arrêta tout à coup.
« Si, par exemple, vous pouviez envoyer votre patient sans tarder davantage... »
Le docteur prononça ces derniers mots presque avec colère, au point que le capitaine tressaillit.
« À Syracuse. Alors, par suite des nouvelles conditions climatériques favorables, il pourrait peut-être se produire... »
« À Syracuse ? » s'exclama le capitaine comme s'il ne comprenait pas encore.
« Syracuse, c'est en Sicile !» expliqua Collia à haute voix.
Le docteur le regarda.
« En Sicile ?» dit le capitaine, effaré. « Mais votre Excellence a vu... »
Il joignit les mains en montrant son intérieur.
« Et la maman et la famille ?»«
Non, votre famille n'irait pas en Sicile, mais au Caucase, dès le printemps. » Et après que votre épouse aurait pris les eaux au Caucase pour guérir ses rhumatismes, il faudrait l'envoyer immédiatement à Paris, dans la clinique de l'aliéniste Le Pelletier, pour qui je pourrais vous donner un mot. Et alors, il pourrait peut-être se produire...
Docteur, docteur, vous voyez ?
Le capitaine étendit de nouveau les bras en montrant dans son désespoir les poutres nues qui formaient le mur du vestibule.
« Mais ceci ne me regarde pas, » déclara en souriant le praticien. « Je vous ai dit seulement ce que pouvait répondre la science à votre question sur les derniers moyens. Le reste, à mon vif regret... »«
N'ayez crainte, guérisseur, mon chien ne vous mordra pas !» dit tout haut Collia, remarquant que le médecin regardait avec quelque inquiétude Carillon qui se tenait sur le seuil. Une note courroucée résonnait dans sa voix. Comme il le déclara ensuite, c'était exprès et pour insulter le docteur qu'il l'avait appelé guérisseur.
« Qu'est-ce à dire ? »
fit le docteur en fixant Collier avec surprise.
« Qui est-ce ? »
insista-t-il en s'adressant à Alyosha comme pour lui demander compte.
« C'est le maître de Carillon, guérisseur. Ne vous inquiétez pas de ma personnalité. »«
Carillon ? » répéta le docteur qui n'avait pas compris.
« Adieu, guérisseur, nous nous reverrons à Syracuse. »«
Mais qui est-ce? Qui est-ce donc ?» fit le docteur exaspéré.
« C'est un écolier, docteur, un polisson, ne faites pas attention !»
dit vivement Alyosha en fronçant les sourcils.
« Collia, taisez-vous ! Ne faites pas attention » répéta-t-il avec quelque impatience.
« Il faut le fouetter, le fouetter !» dit le docteur furieux et trépignant.
« Savez-vous, guérisseur, que Carillon pourrait bien vous mordre ?»
jeta d'une voix tremblante Collia tout pâle et les yeux étincelants.
« Ici, Carillon !»«
Collia, si vous dites encore un mot, je romps avec vous pour toujours !» cria impérieusement Alyosha.
« Guérisseur, il n'y a qu'un être au monde qui puisse commander à Nicolas Krasotkin. Le voici !»
Il désigna Alyosha.
« Je me soumets. Adieu !»
Il ouvrit la porte, rentra dans la chambre. Carillon s'élança à sa suite. Le docteur, demeuré une seconde comme pétrifié, regarda Alyosha, cracha, cria.
« C'est intolérable !»
Le capitaine se précipita pour l'aider. Alyosha rentra à son tour. Collia était déjà au chevet d'Ilyusha. Le malade le tenait par la main et appelait son père. Le capitaine revint bientôt.
« Papa ! « Papa, viens ici, nous... »
murmura Ilyusha surexcité, mais n'ayant pas la force de continuer. Il tendit en avant ses bras amaigris, les passa autour de Collia et de son père, qu'il réunit dans la même étreinte en se serrant contre eux. Le capitaine fut secoué de sanglots silencieux. Collia était près de pleurer.
« Papa, papa, comme tu me fais de la peine, papa !»
gémit Ilyusha.
« Ilyusha, mon chéri, le docteur a dit, tu guériras, nous serons heureux. »«
Ah, papa, je sais bien ce que le nouveau docteur t'a dit à mon sujet. »«
J'ai vu !»
s'exclama Ilyusha. Il les serra de nouveau de toutes ses forces contre lui en cachant sa figure sur l'épaule de son père.
« Papa, ne pleure pas. Quand je serai mort, prends un bon garçon, un autre, choisis le meilleur d'entre eux. « Appelle-le Ilyusha et aime-le à ma place. »«
Tais-toi, vieux, tu guériras !» cria Krasotkin d'un ton bourru.
« Quant à moi, papa, ne m'oublie jamais !» continua Ilyusha. « Viens sur ma tombe. »
Sais-tu, papa,
Enterre-moi près de notre grande pierre, là où nous allions nous promener, et va là-bas le soir, avec Krasotkine et Carillon. Et moi, je vous attendrai. Papa, papa !»
Sa voix s'étrangla. Tous trois se tinrent enlacés, sans parler. Nina pleurait doucement dans son fauteuil. Et tout à coup, en les voyant tous pleurer, la maman fondit en larmes.
« Ilyusha, Ilyusha !» s'écria-t-elle.
Krasotkine se dégagea des bras d'Ilyusha.
« Adieu, vieux, ma mère m'attend pour déjeuner, » dit-il rapidement. « Quel dommage que je ne l'ai pas prévenue, elle sera très inquiète. Mais après déjeuner, je reviendrai te voir. Je resterai jusqu'à ce soir. J'en aurai long à te raconter. Et j'amènerai Carillon. Maintenant, je l'emmène, parce que sans moi, il se mettrait à hurler et te gênerait. Au revoir. »
Il courut dans le vestibule. Il ne voulait pas pleurer, mais ne put s'en empêcher. C'est dans cet état que le trouva Alyosha.
« Kolia, il vous faut tenir parole et venir, sinon il éprouvera un violent chagrin, » dit-il avec insistance. « Certainement. Oh, que je m'en veux de n'être pas venu plus tôt !»
murmura Kolia en pleurant, sans nulle confusion. À ce moment, le capitaine surgit et referma aussitôt la porte derrière lui. Il avait l'air égaré, ses lèvres tremblaient. Il s'arrêta devant les deux jeunes gens, leva les bras en l'air.
« Je ne veux pas de bons garçons, je n'en veux pas d'autres !» murmura-t-il d'un ton farouche en grinçant des dents. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue soit attachée !»
Il n'acheva pas. La voix parut lui manquer, et il se laissa tomber devant un banc de bois. La tête serrée dans ses poings, il se mit à sangloter en gémissant, mais doucement, pour que ses plaintes ne fussent pas entendues dans l'isba. Kolia se précipita dans la rue.
« Adieu, Karamazov, vous viendrez aussi ?»
demanda-t-il d'un air brusque à Alyosha.
« Ce soir, sans faute. » « Qu'a-t-il dit au sujet de Jérusalem ? Qu'est-ce encore ?»«
C'est tiré de la Bible. Si je t'oublie, Jérusalem, c'est-à-dire si j'oublie ce que j'ai de plus précieux, si je le change, alors que je sois frappé. »«
Ah, je comprends, ça suffit. Venez aussi. Ici, Carillon !»
cria-t-il rageusement à son chien, et il s'éloigna à grands pas.